Combien est grande notre sollicitude pour le bien de nos sujets, la teneur de ce que nous exposons si après le démontre spécialement pour remédier aux continuelles charges pesant sur les pauvres, aussi bien aux exactions exagérées imposées par ceux qui ont le pouvoir. Car nous savons véritablement combien les pauvres pâtissent de la violence des grands. Extrait de l'édit du roi lombard Rothari, promulgué en 643.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de notre dernière chronique, nous avions laissé les Lombards aux portes de l'Italie du Nord. C'est environ une population de 200 000 personnes qui entre dans la péninsule par la vallée de l'Isonzo et qui s'installe dans le Frioul puis dans la plaine du Pô en l'an 569. Les Lombards s'emparent sans difficulté de Vicence, Vérone, Milan et de Pavie à la suite d'un siège de plus de 2 ans. Leur chef, Alboin, s'installe dans cette cité, occupant un ancien palais de Théodoric. Les nouveaux arrivants vont d'ailleurs donner son nom à la région, la Lombardie. La toponymie de certains lieux de Lombardie garde la trace d'ailleurs de la langue lombarde. Ainsi, le suffixe « engo » signifiant « fils ou descendant d'eux » que l'on trouve par exemple dans le nom de la ville de Marengo, célèbre pour la victoire de Bonaparte. Si les Byzantins défendent efficacement Padoue jusqu'en 598, ils ne peuvent empêcher des raids lombards en Toscane, dans la région de Spolète et de Bénévent, qui tombent sous la domination lombarde. La structure de la société lombarde repose sur le fait militaire. Le roi est désigné par les chefs militaires qui le hissent sur le pavois à la suite de l'élection. Mais le pouvoir lombard est régulièrement traversé par des crises liées à des assassinats qui provoquent une instabilité à la tête des nouveaux maîtres. Alboin lui-même est assassiné en 572 à Vérone. Son successeur, Clef, connaît le même sort en 574, sans doute à la suite d'un complot organisé depuis Byzance. De 774 à 784, les Lombards n'ont pas de souverain. Il faut attendre les règnes de Otari, 584-590, et d'Agilulf, 591-616, pour que le pouvoir lombard en Italie connaisse un relatif équilibre. La progression lombarde va repartir à partir de 636. Jusqu'en 653, les Lombards conquièrent les dernières places fortes byzantines en Italie du Nord, ainsi que la Ligurie et la Vénétie orientale. La question religieuse est importante dans l'Italie dominée par les Lombards. À leur arrivée en Italie, ils sont partagés entre païens et chrétiens ariens, pour qui il n'y a pas d'égalité entre les trois personnes divines qui composent la Trinité, mais une supériorité du Père envers le Fils. Par les unions matrimoniales, le catholicisme est néanmoins présent à la cour de Pavie. C'est le cas par exemple avec la princesse bavaroise Théodolinde, successivement épouse de Childebert II, le Franc, puis des Lombards, Otari et Agilulf, qui lui-même se convertira au catholicisme. Mais une bonne partie de l'aristocratie lombarde reste fidèle à l'arianisme. Les rois Arioral de Rothari sont des Ariens. Et il faut attendre le règne du roi Pertari pour que le christianisme catholique devienne la religion officielle de la monarchie lombarde en 683. Elle va dès lors conduire une politique de fondation d'église, en particulier à Pavie, où l'on dénombre 8 fondations royales. Cependant, cette politique ne signifie pas que le pouvoir lombard reconnaisse la primauté doctrinale de l'évêque de Rome, ni qu'elle ne convoite pas les territoires pontificaux et la ville de Rome elle-même. C'est pour cela que la papauté va progressivement se tourner vers les Carolingiens afin de les protéger du danger lombard.
Christus, 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 Christ
Mais avant de voir l'intervention des Francs en Italie, il faut tout de même remarquer que l'État lombard a eu une vie administrative et législative non négligeable. En effet, les souverains lombards se sont voulus législateurs par une série d'édits, et le plus important est celui du roi Rotari promulgué en 643. J'en ai cité un extrait dans le prologue. Au début de l'édit, il est précisé que effectivement, il s'agit de combattre les grands et leur violence au profit du peuple lui-même. Le monarque se veut garant de l'ordre et protecteur des plus faibles dans la tradition chrétienne. Il souhaite mettre fin à la pratique de la faïda, c'est-à-dire de la vengeance privée organisée par les puissants, au profit de ce qu'on appelle le Widergeld, c'est-à-dire une peine proportionnée. Voilà des exemples tirés de l'article 74 de la loi de Rotari. Si quelqu'un blesse à la tête un autre homme de telle manière que le cuir chevelu soit ouvert, il paiera 6 sous. Si quelqu'un blesse à la tête un autre homme de telle manière que les os soient rompus, il paiera 12 sous. Si quelqu'un a coupé la main d'un autre homme, il paiera la composition correspondant à la moitié de la valeur de ce qu'il aurait payé s'il l'avait tué. Vous voyez que nous rentrons là, avec cet édit de Rotari, dans une précision juridique extrêmement précise. La justice est d'ailleurs rendue au nom du roi par des juges appelés les Sculdai, qui font prêter serment aux accusateurs et aux accusés, s'en remettant souvent à la justice de Dieu. D'autre part, le livre de Paul Diacre permet de préciser nos connaissances de l'organisation de la société lombarde et du pouvoir royal. Le roi est chef de ses guerriers, il est donc détenteur du droit de justice, il frappe monnaie, imité des pièces byzantines, dans des ateliers qui sont installés à Pavie et à Milan. Le souverain s'appuie sur un réseau de fidèles, appelés les Arimani, dont on a des traces grâce à la distribution de terres par les rois dans les provinces de Pise, Milan, Vérone. La principale difficulté des rois lombards est de réduire à l'obéissance les grands aristocrates qui portent le nom de duc. On les trouve en défense de la péninsule au nord, dans les régions de Trente et du Frioul, mais également dans les duchés de Bénévent et de Spolète, véritables principautés indépendantes. Mais revenons à la question des relations avec l'Église, parce que dans l'avenir de la monarchie lombarde, ces relations sont absolument fondamentales. En effet, la monarchie lombarde a l'ambition de contrôler à la fois l'exarchat de Ravenne, toujours aux mains des Byzantins, et la région de Rome. Ravenne est occupée temporairement entre 733 et 735, avant de tomber définitivement aux mains des Lombards en 751. Par contre, à Rome, la papauté s'inquiète des ambitions lombardes. En 739, le pape Grégoire III sollicite l'aide de Charles Martel, maire du palais de la dynastie mérovingienne. Le franc envoie les abbés de Corbie et de Saint-Denis afin de porter de bonnes paroles au pape, mais sans soutien concret. Par contre, un peu plus tard, il y a une intervention directe. Le pape Zacharie, qui a avalisé le changement de dynastie en Gaule, passant des Mérovingiens aux Carolingiens, en la personne de Pépin le Bref, vient pour sacrer le souverain, car le pape Étienne II, à Saint-Denis, pose la couronne en 754 sur la tête de Pépin le Bref, reprenant une tradition biblique du sacre des rois. Son fils Charles répond à l'appel d'Étienne III, qui s'inquiète de plus en plus de la pression du roi lombard Didier sur la ville éternelle. En 773, il constitue deux armées afin de contraindre les Lombards à scinder leurs forces. La première emprunte le col du Saint-Bernard, la seconde du Mont-Cenis. Bousculées par les Francs, à la sortie des Alpes, les troupes de Didier se replient sur Pavie, qui tombe en juin 774. Didier est exilé dans l'abbaye de Corbie, en Picardie, et Charles prend le titre de roi des Lombards, qu'il cumule avec celui de roi des Francs. Il n'y a pas de fusion des deux royaumes, mais juxtaposition. Les élites lombardes, ménagées par Charles, entrent sans trop de difficultés à son service. D'autre part, le souverain franc annexe le duché de Spolète à son domaine italien et soumet le duché de Bénévent à un tribut. Le domaine de Charles est désormais le principal élément de l'Italie de la fin du 8e siècle. La souveraineté byzantine est encore présente en Sicile, dans les Pouilles, en Calabre et autour de Naples. L'autre grande action de Charles en Italie est sa visite à Rome, où il est reçu avec tous les honneurs par le pape Adrien Ier au moment des fêtes de Pâques 774. Le roi des Francs reçoit le titre de Christianissimus Carolus Magnus Rex, le très chrétien Charles, roi. Le roi très chrétien Charles le Grand, qui donne ainsi le nom de Charlemagne. Les conquêtes de la marche d'Espagne, c'est-à-dire la Catalogne, de la Bavière, de la Carinthie, font véritablement un véritable empire qui va être concrétisé dans la journée de Noël de l'an 800 par le couronnement impérial qui fait que l'Occident retrouve en termes de pouvoir impérial une personnification dans la personnalité de Charles le Grand, de Charlemagne. L'Italie a désormais un lien direct avec la monarchie franque. Il écrit d'ailleurs au pape Léon III en 795 « À moi, il appartient, avec l'aide de la divine piété, de défendre en tout lieu la Sainte Église du Christ par les armes, au dehors contre les incursions des païens et les dévastations des infidèles, au dedans, en la protégeant par la diffusion de la foi catholique. À vous, très saint Père, il appartient, élevant les mains vers Dieu avec Moïse, d'aider par vos prières au succès de nos armes. » Thank you.